Après la première et après la deuxième vague, la troisième vague du Covid sera-t-elle psychiatrique? Le ministre de la Santé lui-même a reconnu que les indicateurs en termes de santé mentale étaient préoccupants, et notamment chez les jeunes qui vivent très mal ces deux confinements successifs, et chez les plus précaires qui doivent encaisser, en plus de la crise sanitaire, une crise économique de grande ampleur, sans oublier les personnes qui ont contracté la maladie et dont beaucoup le vivent comme un traumatisme. Le secteur de la psychiatrie alerte depuis des mois les pouvoirs publics sur cette crise dans la crise et sur les conséquences désastreuses qu'elle pourrait avoir à long terme. Covid-19, troisième vague à l'âme, c'est le programme psychiatrique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de ces conséquences psychiatriques de la crise sanitaire en cours, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Marion Leboyer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure de psychiatrie à l'Université Paris-Est Créteil, directrice des départements universitaires de psychiatrie des hôpitaux Henri Mondor à Créteil justement et directrice de la Fondation Fondamentale. Et Nicolas Franck, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychiatrie au Centre Hospitalo-Universitaire de Lyon, chef du pôle Centre Rive Gauche au Centre Hospitalier de Levinatier et auteur de Covid-19 et détresse psychologique 2020, l'Odyssée du confinement. C'est chez Odile Jacob. Mais avant de vous retrouver, on fait le point sur l'actualité scientifique du week-end avec le Journal des Sciences et Natacha Triou. Bonjour Natacha.
Bonjour Nicolas.
Et pour commencer ce journal, l'indépendance éditoriale de la rédaction du magazine Science et Vie est menacée.
Oui, nos confrères de ce magazine scientifique centenaire, qui existe depuis 1913, parlent d'un sabotage éditorial. La rédaction du magazine a donc voté hier une motion de défiance à l'encontre de sa nouvelle direction. Alors pour bien comprendre ce qui se passe, un petit retour en arrière. L'an dernier, ce mensuel s'est fait racheter par le groupe de presse Reward Media et a perdu, lors du rachat, environ un tiers de ses journalistes. En septembre, Hervé Poirier, l'ancien directeur de la rédaction, a brutalement quitté son poste et la rédaction s'est mise en grève. Les journalistes avaient découvert que des articles étaient publiés sur le site web sans l'accord ni l'aval de la rédaction. Karine Zagaroli a depuis été nommée au poste de directrice. Elle vient de placer un rédacteur-chef au profil non scientifique, tandis que le service web est désormais alimenté par les équipes de Reward Media, des chargés de contenu qui ne sont pas journalistes et dont la qualité des publications est bien en deçà des exigences de la revue. Karine Zagaroli avait pourtant promis de préserver la ligne éditoriale, la qualité du magazine et de son site internet.
On passe au bref. Selon une étude parue dans The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, dans le coma de la comète Chury, il y a du phosphore solide et du fluor.
Et des éléments qui sont essentiels à la vie. Une équipe internationale a examiné les données rapportées par l'instrument COSIMA à bord de la sonde Rosetta de l'ESA. Les chercheurs ont analysé un ensemble de spectres de 24 particules solides. Ces minéraux contiennent bien du phosphore solide et du fluor. Alors ce n'est pas la première fois que l'on en détecte dans une comète, mais cette étude vient renforcer l'idée selon laquelle les ingrédients clés du vivant ont été apportés sur notre planète par des comètes.
Dans une étude publiée dans The Journal of Physical Chemistry, des scientifiques proposent un nouveau tableau de Mendeleïev.
Oui, l'an dernier, on fêtait les 150 ans du tableau périodique des éléments, la clé de voûte de la chimie moderne. Cet outil permet de classer tous les éléments chimiques. Il les ordonne par leur numéro atomique, le nombre de protons d'un atome, et il les organise en fonction de leur similitude chimique. Selon deux chimistes russes, ce tableau pourrait être affiné. Il suggère d'attribuer à chacun des éléments un nombre de Mendeleïev. Ce nombre serait déterminé selon le rayon atomique d'un élément et selon son électronégativité, soit la capacité d'un atome à attirer les électrons. Améliorer ce tableau, c'est aussi aider à prédire de nouveaux matériaux.
Et enfin, une étude parue dans la revue Plankton and Benthos Research Eh bien, cette étude décrit la découverte d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de méduse, alors ça va être difficile, la Dubrachium, la Dubrachium sparksae.
J'aurais même pas essayé de le prononcer, voilà. Trois créatures ont été identifiées au large de Porto Rico, à environ 4 km de profondeur. À ces profondeurs extrêmes, c'est déjà rare d'observer des animaux dans leur habitat naturel, mais alors découvrir de nouvelles espèces. Donc une équipe américaine a fait cette découverte grâce à des vidéos haute définition. Alors ce n'est pas exactement une méduse, mais plutôt un sténophore, avec un corps bulbeux et gélatineux en forme de ballon, et doté de deux longues tentacules. Trois beaux spécimens se déplaçaient comme des montgolfières, pour reprendre les mots des chercheurs. On ne sait pas encore quel est leur rôle dans l'écosystème.
Et si vous voulez voir à quoi ressemblent ces petites méduses dont je n'essaierai pas de reprononcer le nom, vous pouvez vous rendre sur notre fil Twitter @lamethodefc où on vient de poster des images assez ravissantes, il faut bien le dire. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Il y a le confinement pour commencer qui ne se vit pas de la même façon selon qu'on a les moyens de s'exiler dans une grande maison de campagne ou qu'on souhaite enfermer à plusieurs dans un petit appartement en ville exigu. Le fait de ne plus voir ses proches, ses amis, parfois sa famille lorsqu'on en est éloigné. Puis il y a la crainte de la maladie, l'atmosphère anxiogène de ces derniers mois, sans oublier bien sûr les personnes qui sont tombées malades et pour qui cette maladie a été un véritable traumatisme ou un véritable choc. Tout cela conduit à fragiliser très fortement une partie de la population, à tel point que le personnel psychiatrique a lancé un appel au pouvoir public pour mettre en garde contre ce qui serait une troisième vague psychiatrique aux conséquences redoutables sur le long terme. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'en est lui-même inquiété lors de son point presse du 19 novembre dernier.
Pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre nous, le confinement de la première vague a constitué un choc, ravivé par le nouveau confinement. Chacun se sentira concerné si je dis qu'il y a eu de la peur, parfois de la sidération, tantôt de l'espoir, tantôt du désespoir, de l'incompréhension, de l'agacement et parfois même de la colère. Et parfois, ces sentiments peuvent devenir trop lourds à porter seuls, jusqu'à, dans les cas extrêmes, finir par envahir notre quotidien. Dans ces situations, il faut pouvoir trouver de l'aide et se tourner vers les professionnels de la santé mentale. La santé mentale des Français s'est ainsi significativement dégradée entre fin septembre et début novembre, avec une augmentation conséquente des syndromes dépressifs observés pour tous les profils sociodémographiques. Elle s'avère encore plus marquée pour les personnes déclarant une situation financière difficile, mais aussi pour les 18-24 ans, et enfin pour les personnes qui déclarent déjà des antécédents sur le plan psychiatrique. Par ailleurs, on observe depuis fin août une augmentation continue et globalement significative des états anxieux, ainsi qu'une diminution de l'indicateur qu'on appelle satisfaction de vie.
Voilà Olivier Véran, le ministre de la Santé, le 19 novembre dernier. Cette allocution, cette prise en compte du ministre de la Santé, de la crise psychiatrique que traverse la France en ce moment et qu'on peut certainement étendre à l'ensemble du monde lié à la crise sanitaire. C'était important pour vous, pour le personnel psychiatrique, Marion Le Boyer ?
Alors c'est tout à fait important effectivement que le ministre de la Santé reconnaisse que le Covid et l'après-Covid sera psychiatrique. Il y a une vraie vague qui commence simplement maintenant et qui sera probablement dans le long terme. Ceci dit, on le dit nous depuis très longtemps, nous les professionnels de santé mentale, parce que les données issues des suivis des précédentes cohortes qui ont été exposées soit à des traumatismes comme les crises économiques, par exemple la crise de 2008, soit à des pandémies, on est tout à fait au fait du fait qu'il y a une augmentation du risque de troubles de l'humeur et de troubles anxieux. Donc là, on est tout au début de ce qui va se passer, et parce que, comme vous venez de le dire, c'est un phénomène qui s'inscrit dans le temps long, et comme vient de le dire le ministre, qui nous touche tous.
Nicolas Franck, votre réaction à cette allocution du ministre, elle était importante, elle était attendue ?
Oui, c'est une très bonne chose, parce que c'est une épreuve effectivement absolument très conséquente et même terrifiante pour une partie des Français, donc c'était important de reconnaître cette dimension de notre santé, qui est la santé mentale.
Pourquoi est-ce qu'on parle de troisième vague psychiatrique ? Parce qu'il y aurait là aussi une latence, un effet retard, Nicolas Franck ?
Oui, tout à fait. Bah, deux vagues avec virales, avec des contaminations, des pics, etc., pics de mortalité, et puis une troisième vague avec des troubles psychiatriques décalés, parce que les choses s'inscrivent dans la durée, parce que l'effet peut être progressif et décalé. Mais moi, ce qui m'inquiète surtout, ce sont tous ces gens qui, en psychiatrie, et ça, on en a bien l'habitude, vont avoir un besoin de soins, vont avoir des difficultés, une souffrance, mais ne vont pas venir à nous. D'où l'importance de communiquer largement et que la population française ait conscience de cette dimension et puisse solliciter des soins.
Pourquoi est-ce qu'ils ne viendraient pas à vous, Nicolas Franck ?
Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, ils peuvent ne pas prendre conscience qu'ils sont en difficulté, même si celle-ci est importante. Deuxièmement, il y a encore pas mal de tabous liés à la maladie mentale en France. Mmh. C'est plus facile d'ignorer qu'on a des difficultés dans ce domaine-là que de les reconnaître. Et si on les ignore, on ne demande pas de soins.
Mmh. Marion Le Boyer, le ministre a employé un mot qui est important ou qui semble important, c'est le mot de sidération. De quoi s'agit-il exactement ? Qu'est-ce que c'est que cet état de sidération que le ministre évoque, mais qu'on retrouve quand on s'intéresse justement bien à ces conséquences psychiatriques de la crise sanitaire ?
Alors, il a utilisé beaucoup de mots, hein. Mmh. Il a utilisé la peur, la sidération, le désespoir, la colère. Et en fait, il a décrit les difficultés psychologiques que nous avons rencontrées pendant le confinement, à la suite dans la période du déconfinement, où on a vu aussi une augmentation de l'anxiété et de la consommation des anxiolytiques chez les Français. Cette période de confinement dont on sort, qui a été pour la plupart d'entre nous une période encore plus anxiogène, parce que s'installant dans la durée, quelque chose d'inconnu et d'inédit. Mais ce sur quoi il faut vraiment que nous insistions, c'est que ces difficultés, elles sont rencontrées par tout le monde, mais là où il faut être extrêmement attentif, c'est quand ces difficultés psychologiques se transforment en maladie dépressive, en pathologie anxieuse, pour lequel, comme Nicolas Franck vient de le dire, il faut absolument que la population soit informée du fait qu'il n'y a pas de honte à ressentir des sentiments de désespoir, de fatigue, de difficulté à accomplir des choses, à prendre du plaisir dans les activités que nous avons tous les jours. Et à ce moment-là, si on a un doute sur le fait qu'on est peut-être déprimé, qu'on a une pathologie anxieuse qui entraîne une difficulté dans le fonctionnement quotidien, il ne faut surtout pas hésiter à avoir un professionnel, que ce soit un médecin traitant ou un professionnel de santé mentale.
Est-ce que ce discours du ministre a eu des conséquences pratiques ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un plan d'action qui a été décidé par le gouvernement justement pour remédier à cette situation inquiétante sur le plan psychiatrique, Nicolas Franck ?
C'est en cours de construction, hein. Le discours est encore très récent, donc je pense qu'il faut attendre un petit peu. Je pense aussi qu'il faut voir les choses avec plusieurs grades en termes d'aide à apporter à la population. Je pense que la première chose à conseiller à la population, c'est de pouvoir s'écouter, enfin, s'entraider. Ensuite, éventuellement, une aide un petit peu ponctuelle par rapport à des troubles résolutifs rapidement, puis une aide psychiatrique plus structurée pour les gens qui en ont besoin. En fait, il ne faut pas envoyer tout le monde en psychiatrie. Il est important d'avoir une offre graduée.
Marion Le Boyer, votre sentiment à ce propos du plan d'action qui peut-être est en train d'être mis en cours ou qu'est-ce qui serait nécessaire à déployer ?
Alors moi, je pense qu'il y a vraiment besoin de réfléchir rapidement et en urgence à des moyens à développer, sans pour autant faire état d'un catastrophisme, mais simplement parce que prévoir et organiser les choses, c'est quand même plus efficace que d'attendre, ce d'autant que nous avons été plusieurs à signaler avant la crise à quel point l'organisation de la psychiatrie en France est en difficulté. Et comme toujours, la crise ne fait que acutiser les situations qui sont fragiles et qui sont difficiles. Donc à très court terme, on pourrait utilement déployer trois types d'actions. La première qui est ce qu'on fait en ce moment là, ensemble sur France Culture et qui est extrêmement important, qui est d'en parler et d'informer et de donner des explications et de décrire ce qui peut se passer pour inciter les personnes qui éventuellement sont malades à aller consulter s'ils ont un doute. Et puis les autres actions qu'il faudrait essayer de développer, c'est effectivement donner accès à un certain nombre de plateformes sur lesquelles les gens peuvent trouver à la fois des outils d'auto-évaluation ou des outils d'auto-aide qui leur permettent, sans avoir forcément à aller consulter un médecin ou un psychiatre et rentrer dans le monde de la psychiatrie, déjà à essayer de gérer un certain nombre de situations difficiles.
France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin.
Et à 16h15, nous parlons des conséquences psychiatriques de la crise sanitaire en compagnie de Marion Le Boyer et Nicolas Franck. Je précise qu'on évoquera tout à l'heure les conséquences psychiatriques pour les patients Covid, pour les personnes qui ont attrapé la maladie, qui sont des conséquences relativement distinctes de celles que nous pouvons vivre tout un chacun dans l'atmosphère qui est celle de cette crise sanitaire, le confinement, l'isolement, la solitude, la rupture sociale. C'est ce dont nous allons parler dans cette première partie. Peut-être qu'on peut dire un mot, Nicolas Franck, parce que effectivement, il y a toujours ces tabous. Alors, je ne sais pas si c'est propre à la France. D'ailleurs, vous allez peut-être pouvoir nous le dire autour de la santé mentale, pour ne pas dire la maladie mentale. C'est plus difficile en France de dire, d'accepter, de déclarer qu'on traverse un épisode dépressif, qu'on traverse un épisode anxieux, que dans d'autres pays. Qu'est-ce qui se passe exactement? De quoi on parle quand on parle de santé mentale?
Alors effectivement, c'est plus difficile en France, mais la situation a quand même bien évolué. Dans les dernières décennies, on peut plus facilement parler effectivement de dépression, de troubles anxieux, de troubles bipolaires. Les choses se sont bien améliorées, mais ne se sont pas aussi bien généralisées que dans d'autres pays où il y a eu une éducation à la santé extrêmement large, où dans le programme de l'éducation nationale, on a pu parler au collège, à tous les collégiens, de dépression et de schizophrénie à tous les lycéens. Par exemple, en Australie, ça fait bien longtemps que le programme de l'éducation nationale a été modifié en ce sens. En France, ça n'est pas encore fait. Et donc, les choses restent encore mystérieuses, utilisées dans les médias parfois de manière erronée, de manière blessante pour les patients, comme le mot schizophrénie, et ça a été fait largement, des enquêtes de fondamentales l'ont bien montré. Marion Le Boyer pourra compléter. Mm-hmm. Et en France, on a encore vraiment beaucoup de travail pour aller vers une déstigmatisation de toute la sphère mentale, en fait.
Marion Le Boyer.
Tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail en France pour que les gens qui sont déprimés ne commencent pas par avoir un sentiment de honte ou de culpabilité et n'allaient pas tout de suite vers un professionnel de santé, pour que parler d'un trouble bipolaire, ça soit quelque chose qui soit compréhensible et compris. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup encore de stigmatisation, de mauvaises représentations, de fausses représentations à l'égard de ces patients qui rendent et qui entraînent et qui contribuent au retard, au diagnostic et à la prise en charge.
Mais alors, concrètement, de quoi parle-t-on? De quel type de trouble parle-t-on? Comment est-ce que, quand on n'a pas de passif psychiatrique, quand on n'a pas l'habitude d'avoir été confronté à ces troubles anxieux ou à ces troubles dépressifs, comment est-ce qu'on peut les identifier? Quels sont les symptômes? Quels sont les signes auxquels il faut être attentif? Qui veut commencer là-dessus? Marion Le Boyer?
Par exemple, parler de dépression, c'est quand même une pathologie qui est extrêmement fréquente. C'est probablement la plus fréquente de toutes les maladies mentales. C'est à peu près 10% de la population générale. C'est une maladie qui se diagnostique, qui se soigne, mais à condition qu'on la prenne en charge et qu'elle soit diagnostiquée. Quand est-ce qu'il faut penser à une dépression? Eh bien, quand on a une fatigue et que cette fatigue, elle dure, qu'elle est quelquefois plus importante le matin au réveil que le soir, qu'elle est associée à une tristesse de l'humeur qui est très durable, à une perte de plaisir dans ce qu'on aime bien faire habituellement, à un manque de motivation, à un manque d'énergie, et puis très souvent elle s'associe à des troubles de concentration, à des troubles de mémoire, à des problèmes pour s'alimenter et à des troubles du sommeil. Quand il y a tout cet ensemble de symptômes et qu'ils perdurent, vraiment il ne faut pas hésiter à consulter.
Nicolas Franck, justement vraiment très concrètement, parce que là ce qu'on entend, on a l'impression que tout de suite, évidemment, quand ce que nous dit Marion Le Boyer, c'est assez évident quand on aligne ses symptômes, mais parfois c'est est-ce qu'il y a des niveaux à partir desquels il faut s'inquiéter quand on n'a pas l'habitude de se préoccuper de son état mental? Est-ce que c'est de l'irritabilité? Quels sont les signaux qui doivent engager quelqu'un à s'inquiéter ou à peut-être demander de l'aide?
Alors, il y a deux manières de voir. On peut se mettre dans la perspective du proche ou dans la perspective de la personne qui entend ses proches s'inquiéter pour lui. Enfin, pour elle, pardon. Donc, effectivement, s'il y a un changement dans les modalités relationnelles, si la personne se plaint plus, n'arrive pas à faire face à son quotidien, est en train de ruminer, de répéter les mêmes idées, n'a plus de courage, soit ses proches vont pouvoir le lui dire, soit elle va en prendre conscience elle-même. Dans les deux cas, il faudrait qu'elle puisse aller consulter. Si vous voulez, il faudrait qu'elle puisse demander de l'aide à des professionnels si le fait d'en parler à ses proches ne suffit pas à la soulager, pour donner un critère simple pour la population.
Mmh. Marion Le Boyer, par exemple, sur les troubles du sommeil, en même temps, bon, voilà, l'hiver arrive, la nuit tombe plus tôt, c'est vrai que le climat général est, on va dire, relativement anxiogène à plein d'égards. Qu'est-ce qui serait du domaine, alors je vais employer un mot que je sais que vous, les psychiatres n'aiment pas beaucoup, mais qu'est-ce qui serait du domaine du normal, de se dire, bon, je me sens un peu atteint par ce qui se passe dans le monde et autour de moi, et qu'est-ce qui fait que ça va basculer du côté pathologique?
Alors, tous les troubles en psychiatrie, d'une façon générale, elles basculent du côté du pathologique quand il y a un problème de fonctionnement, c'est-à-dire quand elles ont des conséquences sur la manière dont on fonctionne au quotidien. Donc, un trouble du sommeil, puisque vous preniez cet exemple, on en a vu beaucoup chez nos patients pendant la période du confinement, où il y a eu très rapidement une perte des repères du cycle qu'on a tous, qui est qu'on se lève le matin, on part pour aller travailler, on a des repas qui sont à heure fixe, on dort et on se lève à heure régulière. Tout ça, très rapidement, ça a été très décalé, en particulier chez les jeunes, et ça peut entraîner, ça peut contribuer à l'apparition des troubles de l'humeur.
Et les troubles du sommeil, c'est forcément qu'on dort mal, ou est-ce qu'au contraire, on peut commencer à trop dormir, Marion Le Boyer ?
Ah ben, il y a plein de troubles du sommeil, effectivement, soit une difficulté d'endormissement, soit des réveils nocturnes fréquents, soit une hypersomnie, qui sont différents phénomènes qui ont des causes et des stratégies thérapeutiques différentes.
À ce propos, Santé publique France a lancé une étude en ligne suite au premier confinement. Nicolas Franck, je crois que vous y avez participé. Quels sont les enseignements de cette première enquête en ligne ?
Alors en fait, j'ai lancé une enquête en ligne avec quelques collègues, en parallèle de celle de Santé publique France, dès la première semaine de confinement, donc je vais plutôt vous parler de mon enquête qui est décrite dans le livre Covid-19 et détresse psychologique. En fait, moi je me suis demandé comment la santé mentale allait être altérée, puis comment les Français allaient faire face à l'épreuve, et donc j'ai sélectionné une échelle, qui est notre critère de jugement principal, qui est une échelle de bien-être mental qui reflète la santé mentale des Français. Et donc les résultats de cette échelle, c'est-à-dire un score sur 70, ont été croisés avec des données sociodémographiques, des données occupationnelles, ce que faisaient les personnes dans la journée, puis des données de consommation également de différentes substances ou d'écran. Donc ce que nous avons constaté très rapidement, nous avons eu plusieurs dizaines de milliers de réponses, c'est que le bien-être mental des Français était altéré dès la deuxième semaine de confinement. L'enquête a commencé à la deuxième semaine de confinement, et que ce bien-être mental n'a pas arrêté de baisser progressivement, en moyenne, au fil des 8 semaines de confinement. Plus l'épreuve est longue, plus elle est difficile, ça peut paraître évident, mais là, nous l'avons vérifié. Et nous avons pu voir également que le bien-être mental était préservé par certaines situations, aggravé par d'autres.
Par exemple ?
Ça a été cité tout à l'heure, le fait de vivre seul, c'est plus difficile. Le fait de ne pas avoir de travail, ça rend les choses plus difficiles. Le fait d'avoir des troubles psychiques, ça rend les choses plus difficiles. Et le fait d'être un étudiant, d'être jeune, de vivre dans une petite face, ça rend les choses évidemment plus difficiles. C'est pour ça qu'on a alerté très tôt sur la santé mentale des étudiants, qui sont encore plus inquiets au deuxième confinement qu'au premier, du fait de la répétition des épreuves.
Ça, c'est quelque chose vraiment d'important, qui ressort de beaucoup d'enquêtes. Les personnes les plus sensibles, les plus susceptibles justement de développer des troubles anxieux ou des troubles du comportement sont plutôt les jeunes. Et alors évidemment, ensuite, on pourra parler des gens les plus précaires, etc. Mais ça touche vraiment plutôt les jeunes, beaucoup plus, par exemple, que les personnes âgées, qui sont pourtant, elles, plus sensibles de développer des formes graves de la maladie. Marion Le Boyer, comment est-ce qu'on explique ça ?
Alors effectivement, toutes ces difficultés qu'on vous décrit aujourd'hui, elles touchent la population générale et la population de personnes qui n'ont jamais été malades auparavant. Mais plus particulièrement, des populations qui ont été décrites aussi bien en France qu'à l'étranger, dans des grandes études internationales, par exemple aux États-Unis, comme étant plus à risque d'avoir des pathologies dépressives et anxieuses qu'on vient de décrire. Ces populations, c'est les jeunes, les femmes et les personnes en situation de précarité économique.
Les personnes en situation de précarité économique, on peut, alors peut-être à tort d'ailleurs, le comprendre un peu plus facilement, mais pourquoi, qu'est-ce qui explique justement cette augmentation, en tout cas cette susceptibilité renforcée chez les jeunes d'une part et chez les femmes de l'autre, Marion Le Boyer ?
Alors, chez les jeunes, ce sont des choses qui sont en train d'être étudiées et on a des hypothèses, mais on constate aujourd'hui, d'abord, c'est une prévalence d'idées suicidaires et de tentatives de suicide très augmentée chez les enfants et chez les jeunes adultes, avec une augmentation importante de l'anxiété, bien sûr des idées dépressives et des dépressions, et puis toute une série de phénomènes dont on a beaucoup parlé sur vos antennes, qui sont l'augmentation d'usage des écrans, les troubles du sommeil, le fait de faire moins de sport, quelquefois l'exposition à des violences intrafamiliales, tous ces facteurs qui ont été extrêmement difficiles et qui s'installent dans la durée, dans une situation où le lien social qui est extrêmement important pour les jeunes est rompu, où ils font, la majorité des étudiants font les cours à distance, donc ont totalement rompu les liens sociaux et vivent souvent dans des conditions de précarité à la fois sur le plan de leur logement, sur le plan économique, et extrêmement difficile, avec une inquiétude bien sûr pour l'avenir professionnel.
Nicolas Franck, à ce propos, c'est intéressant parce qu'on a aussi beaucoup entendu, et notamment à la rentrée après les vacances, un discours public de responsabilisation des jeunes en disant, ben voilà, s'il y a une deuxième vague, c'est un peu de votre faute parce que ben, vous avez voulu faire la fête, vous êtes retrouvé, vous n'avez pas respecté les consignes de sécurité sanitaire. Il y a eu un discours culpabilisant comme ça qui a pu empirer les choses, à votre avis?
Oui, tout à fait possible. Et puis c'est toujours gênant de généraliser comme ça, parce que certains jeunes sont extrêmement respectueux, se trouvent effectivement particulièrement isolés justement parce qu'ils ne transgressent pas les consignes. Ce sont ceux qui souffrent le plus. Et les quelques-uns qui font la fête, et ce ne sont pas une majorité, conditionnent l'opinion générale. Donc c'est toujours ennuyeux. Alors les jeunes, effectivement, ils se retrouvent en grosse difficulté. Moi, je le vois à la fois dans mes fonctions d'enseignant avec mes étudiants à la fac qui se plaignent beaucoup que c'est extrêmement difficile, et dans mes patients qui viennent sur les centres médico-psychologiques et qui se plaignent qu'effectivement sont laissés pour compte, avec certains qui ont très peu de cours en ligne et qui se retrouvent tout seuls à distance de leurs parents qui habitent dans une autre ville, avec des cours qui sont suspendus, parfois un cours en un mois pour une de mes étudiantes la semaine dernière, c'est très choquant, et puis une souffrance donc qui est accentuée ou qui apparaît à cette occasion-là.
Sur les tentatives de suicide, il y a des chiffres qui sont effectivement assez préoccupants, notamment si on regarde ceux de l'hôpital Robert Debré. Les tentatives de suicide, leur nombre a été multiplié par 2, Marion Le Boyer, c'est un étiage qui vous paraît représentatif de ce que vous avez pu constater, vous, de votre côté?
Alors, à Robert Debré, ce dont le professeur Delorme a parlé à plusieurs reprises dans les médias, c'est effectivement le fait qu'il y a une augmentation tout à fait spectaculaire de tentatives de suicide chez les enfants, chez les jeunes. Pour le moment, sans explication, en dehors de tout contexte dont on vient de parler, bien sûr psychologique, social et probablement aussi économique. Alors c'est un phénomène à prendre en compte. Quelles sont les causes précises en plus de toute la situation autour de la pandémie, on ne sait pas, mais ce qu'on sait par contre, si on regarde les précédentes pandémies ou les précédentes crises économiques par exemple, c'est qu'il y a eu une augmentation après la crise de 2008 par exemple du nombre de tentatives de suicide, avec un certain nombre de projections et d'estimations de ce qui pourrait être dans le monde une augmentation du nombre de tentatives de suicide et de suicides à l'avenir.
À ce propos, alors il y a les jeunes d'une part, il y a évidemment la crise sanitaire qui est doublée d'une crise économique. On voit aussi certaines professions particulièrement touchées par cette augmentation des tentatives de suicide. Les chômeurs, vous l'avez dit, les dirigeants d'entreprise aussi, et également les artisans et les commerçants, Nicolas Franck.
Oui, ça n'est pas étonnant, et évidemment. Donc la principale conséquence de la crise, c'est évidemment la transmission et les formes graves du virus avec les détresses respiratoires. La deuxième conséquence, ce sont les conséquences économiques qui viennent aggraver la troisième conséquence, les conséquences psychiatriques. Donc il y a un phénomène de cercle vicieux avec des gens qui se retrouvent dans le désespoir et qui mettent fin à leur jour de ce point de vue-là, de ce fait-là.
Marion Le Boyer, je crois que c'est vous qui disiez dans une interview, la vague de suicide pourrait être devant nous, c'est-à-dire que là aussi il y a un effet retard qu'on ne perçoit pas encore de tout ce qui est en train de se passer, alors même que le déconfinement est en train d'être amorcé, qu'on peut commencer à imaginer à terme, d'ici quelques semaines, quelques mois, une reprise d'une vie partiellement normale avec l'arrivée des vaccins.
Ce qu'on voit dans les publications internationales qui ont suivi des populations qui ont été infectées ou qui n'ont pas été infectées mais qui ont vécu dans un climat un petit peu comme celui qu'on vit aujourd'hui, par exemple les précédentes pandémies de coronavirus, MERS ou SARS, c'est que dans les mois qui suivent la fin d'une pandémie, quand je dis les mois, c'est 10 à 30 mois après, c'est là qu'apparaissent des troubles anxieux sévères, des stress post-traumatiques, des dépressions, éventuellement des suicides. Donc c'est pour ça que les professionnels de santé mentale parlent aujourd'hui d'une vague qui est devant nous. Et c'est pour ça qu'on est très content de pouvoir en parler, parce que, encore une fois, c'est pas une catastrophe, ça ne touche pas tout le monde, mais il faut pouvoir s'y préparer pour informer la population et que le système soit capable de répondre et de prendre en charge ces personnes, parce qu'on parle de pathologies qui se soignent.
Mais Nicolas Franck, comment est-ce qu'on explique cette latence, le fait que cette vague puisse arriver des semaines, voire des mois après ce qui serait et ce qu'on espère être évidemment la fin de la crise?
Il y a deux choses. Il y a d'abord le génie propre de chaque trouble, qui s'installe petit à petit avec des idées qui se construisent. C'est pas dans l'instant, mais il y a aussi également le phénomène des faillites décalées. Là, il y a beaucoup d'aides économiques, financières qui sont données aux petites entreprises, à différents magasins, petits commerçants, etc. Mais petit à petit, ces aides vont s'estomper et l'impact financier de la crise va se faire sentir plus durement. Et l'impact psychiatrique, c'est une conséquence de cet impact financier.
C'est-à-dire que cette anxiété, Marion Le Boyer, elle peut vraiment s'installer dans la durée. C'est-à-dire que c'est pas juste quelque chose de temporaire où on peut se dire, bon, je me sens pas très bien en ce moment, mais ça va passer. C'est-à-dire que quand elle commence à s'installer, ça peut devenir quelque chose de pérenne ou de chronique?
Alors de pérenne ou de chronique, probablement pas, mais par contre, cette vague qu'on décrit aujourd'hui ensemble, elle s'inscrit clairement dans le temps long. Il y a le temps de ce qu'on voit aujourd'hui, et ce qu'on anticipe, c'est que effectivement, ça va durer longtemps et ça va probablement continuer après la période sanitaire. Et c'est pour ça qu'il faut le savoir et que l'organisation des soins soit prête à répondre à une demande qui va très probablement être augmentée autour de ces troubles anxieux et de ces troubles dépressifs.
On discutera tout à l'heure justement de la capacité de réponse des services psychiatriques en France, dont on sait qu'effectivement ils sont dans des états de tension ou de crise dont nous avions d'ailleurs parlé à ce micro. Peut-être un mot aussi, Nicolas Franck, parce que on parle de troubles dépressifs, de troubles du sommeil, de troubles de l'humeur, mais les troubles anxieux, l'anxiété, c'est la même chose. Comment est-ce qu'on peut identifier qu'on est plus anxieux qu'on ne l'était auparavant?
Si vous voulez, dans la dépression, l'émotion qui domine est la tristesse, pour expliquer les choses simplement. Dans les troubles anxieux, l'émotion qui domine est la peur. Donc le fait d'avoir des peurs qui ne sont pas proportionnelles finalement aux éléments de réalité inquiétants, ça peut vous faire penser que vous êtes dans le trouble anxieux.
Mais concrètement, là aussi, de manière très pratique, très pragmatique, quels sont les indices qui pourraient m'aider à réaliser qu'en ce moment, je suis en train de traverser une crise d'anxiété qui est supérieure à celle d'un état normal ou d'un état hanté?
Ça va être assez simple s'il s'agit d'attaques de panique, où là, l'anxiété est très importante, très très intense.
Qui se traduit comment, une attaque de panique?
Ça se traduit à la fois par un sentiment de peur extrêmement intense, donc des choses qui sont dans la tête, et puis aussi des manifestations physiques, les mains qui transpirent, la respiration qui s'accélère, l'impression qu'on va tomber dans les pommes, etc., etc. Là, c'est facile à identifier. Quelqu'un qui fait une attaque de panique, en général, se retrouve aux urgences parce qu'il pense qu'il a un infarctus ou une autre maladie physique qui va le faire mourir rapidement. Donc si on laisse ça de côté, on peut plutôt passer à ce qui est type trouble anxieux généralisé, c'est-à-dire le fait d'être habité par des peurs en permanence. La question, là, ce qui va permettre d'attirer l'attention de la personne, c'est que ces peurs-là vont faire vivre la personne sur le qui-vive, enfin mettre la personne sur le qui-vive, lui faire craindre l'avenir, lui faire avoir vraiment des idées extrêmement inquiétantes en permanence, mais qui n'atteignent pas le niveau d'intensité, évidemment, de l'attaque de panique. Donc dans un cas, c'est l'intensité qui est extrêmement importante, dans l'autre, c'est le côté pérenne.
Marion Le Boyer, à ce propos, justement, pour aider nos auditrices ou nos auditeurs à identifier bien des troubles anxieux qui pourraient avoir commencé à habiter leur existence sans qu'ils s'en rendent bien compte.
Ce que vient de dire Nicolas Franck a été parfaitement décrit, et donc quand on vit une crise d'angoisse ou une crise panique, ou quand on a un trouble anxieux généralisé, ou encore quand on développe un stress post-traumatique, la souffrance, la douleur et l'anxiété sont tellement fortes qu'en général, le besoin de consulter, le besoin d'aller voir un professionnel est assez facilement présent.
On va continuer à parler de ces conséquences psychiatriques de la crise sanitaire, et puis on va parler plus précisément des conséquences psychiatriques pour les patients Covid, pour les gens qui ont développé la maladie, et dont on va voir que bien ils peuvent être eux aussi durement touchés par un certain nombre de conséquences psychiatriques pas toujours bien identifiées. Rise de Princessine à 16h35 sur France Culture, toujours comme depuis le début de ce confinement, en soutien à la scène musicale indépendante française qui traverse une période un peu compliquée. Voilà donc pour cette pause musicale, nous allons reprendre notre conversation autour des conséquences psychiatriques de cette crise sanitaire. Nous en parlons avec Marion Leboyer, qui est psychiatre, qui est professeur pardon de psychiatrie à l'Université Paris-Est Créteil, directrice des départements universitaires de psychiatrie des hôpitaux Henri Mondor et directrice de la Fondation Fondamentale, et Nicolas Franck, qui est professeur de psychiatrie au Centre Hospitalo-Universitaire de Lyon et chef du pôle Centre Rive Gauche au Centre Hospitalier de Le Vinatier. On va parler donc maintenant des conséquences psychiatriques pour les gens, pour les patients Covid, pour les gens qui ont contracté la maladie. Il y a une étude qui a été publiée le 9 novembre dans la revue de Lancet Psychiatrie, établie sur 70 millions d'Américains, étude selon laquelle 20% des patients rétablis après avoir attrapé le Covid ont développé des troubles psychiatriques, un patient sur cinq. C'est des chiffres qui vous paraissent correspondre à la réalité de ce que l'on peut voir également en France, également Marion Leboyer.
Alors tout à fait, on parle beaucoup chez les personnes qui ont attrapé le Covid des conséquences, qu'elles soient pulmonaires, cardiologiques ou autres, et pas suffisamment des conséquences psychiatriques, qu'on rencontre bien sûr pas chez tous les patients, mais certains d'entre eux, et c'est important de le dire pour que le suivi des conséquences psychologiques et psychiatriques soit fait de façon systématique. Alors vous venez de citer cette étude américaine, mais il y en a beaucoup d'autres. Mmh. Par exemple, dès le mois d'août, il y a eu un papier qui a été publié à partir de la première étude réalisé en Europe à partir du suivi d'une à peu près 500 patients qui avaient attrapé le Covid et qui étaient suivis dans un hôpital à Milan. Mmh. Et eux, ils ont trouvé 1 sur 2.
56%,
oui. 50%, voilà, 50% des patients qui présentaient soit un trouble anxieux, soit des troubles du sommeil, soit une dépression, soit un stress post-traumatique, soit des éléments de l'ordre d'un trouble obsessionnel compulsif. Et c'est pas très étonnant parce qu'il y a toutes les conséquences psychologiques et sociales qu'on évoquait en première partie d'émission, sur la population générale, mais en plus, on sait depuis très longtemps qu'il y a un lien entre les infections, l'inflammation et le déclenchement de pathologies psychiatriques, en particulier la dépression.
Nicolas Franck, à ce propos, qu'est-ce qui se passe en fait pour les gens qui ont attrapé le Covid, qui ont donc guéri? Est-ce que les conséquences sont les mêmes en fonction qu'on ait fait d'une forme moyenne à grave, à une forme très sévère, c'est-à-dire avec un passage en réanimation? Est-ce qu'il y a un gradient? Quelles sont les données dont on dispose aujourd'hui?
Oui, il y a un gradient, bien sûr. Le fait d'avoir vu la mort, en particulier d'être passé en réanimation, d'avoir craint de mourir, donc ça, c'est un facteur de gravité extrême et un facteur de risque pour le stress post-traumatique. Après un passage en réanimation, plus de la moitié, jusqu'aux deux tiers des patients ont un stress post-traumatique, et ce sont des chiffres qui sont encore supérieurs pour les personnes qui sont atteintes du coronavirus et ont eu une détresse respiratoire du fait de la durée aussi du passage en réanimation. Donc il y a évidemment une gradation entre une forme légère où là, ce seront des symptômes physiques et puis une peur, hein, tout dépend d'ailleurs de la vulnérabilité de la personne. Moi, j'ai vu beaucoup de patients avec une nosophobie, hein, c'est-à-dire des gens qui ont peur des maladies, qui après une infection tout à fait banale ont développé des obsessions par rapport au coronavirus et ne s'en sont pas encore remis.
Ça se traduit comment, alors justement, concrètement, sur le spectre des troubles que l'on peut développer post-Covid, des troubles les plus légers aux troubles les plus graves, Nicolas Franck?
Les troubles les plus légers, on les a cités tout à l'heure, ça va être des troubles anxieux de différentes natures, troubles obsessionnels compulsifs également pour les personnes fragiles de ce côté-là, des dépressions du fait aussi de la fatigue. La fatigue due au coronavirus fragilise du point de vue de l'humeur, ça c'est tout à fait clair. Et ça peut également, pour une personne qui serait vulnérable, qui aurait un trouble bipolaire, un trouble psychotique, ça peut réactiver ce type de pathologie. Et puis pour les personnes qui ont eu peur de mourir ou qui ont vu quelqu'un mourir, ça peut être un syndrome de stress post-traumatique.
Ces syndromes de stress post-traumatique, Marion Leboyer, ils se définissent comment? Quelles en sont là aussi les modalités d'expression?
Là aussi, c'est des tableaux tout à fait classiques qui surviennent en général après un délai plus ou moins long après un événement traumatique pour lequel le patient va revivre une scène traumatisante, quelquefois faire des cauchemars à propos de ces scènes traumatisantes et puis développer une anxiété, une souffrance extrêmement importante.
Dans l'étude américaine de The Lancet, un patient sur quatre n'avait jamais eu de trouble auparavant. Marion Leboyer.
Tout à fait, c'est exactement le message qu'il faut faire passer à vos auditeurs, c'est-à-dire que c'est la population générale et c'est les personnes qui ont eu le Covid, qu'ils aient eu ou non auparavant des troubles psychiatriques, qui sont exposées au risque de faire une pathologie psychiatrique dans les suites d'un Covid. Et aujourd'hui, on n'est pas capable de prédire ceux qui vont faire une pathologie psychiatrique ou pas.
Justement, ces personnes qui ont eu le Covid, alors il y a évidemment celles qui sont passées par l'hôpital et par le parcours hospitalier que l'on peut flécher, j'imagine, suivre un peu mieux, mais comment est-ce qu'on les prend en charge? Comment est-ce qu'on les identifie? Est-ce que ce sont des personnes qui vont avoir tendance à aller naturellement consulter, ou est-ce que là aussi il y a un effort peut-être à faire pour aller les identifier, pour leur proposer un suivi personnalisé, Nicolas Franck?
Oui, tout à fait. Mais je pense que ça c'est la même chose que pour la population générale. En fait, il faut vraiment développer l'éducation à la santé pour que la population prenne conscience que cette dimension est importante. Et puis, si c'est nécessaire, avec les critères qu'on a cités en première partie d'émission, s'adresser à un professionnel.
Marion Le Boyer.
Par exemple, à Mont-d'Or et dans d'autres services en France et à Paris, on a mis en place des suivis systématiques des personnes qui sont sorties d'hospitalisation ou qui ont été simplement contaminées par le virus, de manière à pouvoir très rapidement dépister les troubles dont on parle, parce que très probablement la population française, parce qu'on ne parle pas suffisamment de ces pathologies, a du mal à les consulter spontanément, sauf quand la souffrance est trop lourde et trop difficile, a du mal à les consulter. Et donc le fait de les appeler, on a développé tous des téléconsultations, de faire le point avec eux sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, on est même certain, parce que c'est ce qu'on observe en consultation, permet de dépister des troubles et d'inciter les personnes qu'on appelle à aller se faire soigner auprès d'un psychiatre.
Mais alors du coup, quel est le suivi qui est rendu possible une fois qu'on a identifié ces personnes? Parce qu'il y a un élément qu'on a évoqué très très rapidement en première partie, c'est l'augmentation de la consommation d'anxiolytiques et d'hypnotiques qui a littéralement explosé pendant le premier confinement. Ça veut dire que finalement aujourd'hui le suivi, c'est avant tout un suivi médicamenteux, Nicolas Franck?
Non, suivi psychologique avant tout, hein, comme toujours en psychiatrie, et puis si nécessaire, un suivi médicamenteux. Après, vous citez les médicaments, effectivement, il y a eu une explosion de la consommation d'anxiolytiques, hein, je crois 700 000 ordonnances en plus par rapport à d'habitude, hein, dans les mois d'été. Donc là, le problème, ça va être de gérer les addictions qui en découlent.
Comment on fait pour gérer ce problème-là, c'est-à-dire de ne pas finalement avoir recours uniquement au traitement médicamenteux, parce que ça fait quand même une affluence importante sur les services de santé mentale, que ce soit en ville ou en hôpital, Marion Le Boyer. Comment est-ce que c'est possible de gérer cette affluence?
C'est pour ça qu'on réclame depuis longtemps, et encore plus dans cette période de pandémie, à ce qu'il y ait une réflexion en profondeur de l'organisation du soin en psychiatrie en France, avec des parcours qui soient beaucoup plus lisibles, parce qu'on n'arrête pas de répéter depuis cette émission qu'il faut consulter, mais pour des personnes qui n'ont jamais été malades, c'est pas si simple de trouver le psychologue qui va aider à soigner son stress post-traumatique ou le psychiatre qui va aider à soigner sa dépression. Donc c'est extrêmement important qu'on arrive à repenser des parcours qui soient plus lisibles, une offre de soins qui soit plus homogène sur l'ensemble du territoire, et puis un certain nombre d'actions qu'on appelle aussi tous de nos voeux depuis longtemps. C'est qu'aujourd'hui, aller voir un psychologue pour faire la thérapie cognitivo-comportementale dont on a besoin, c'est pas remboursé. Donc il y a vraiment une réflexion en profondeur à faire pour toute une série de domaines liés à la maladie mentale qui vont de l'information pour faire de la prévention et du dépistage, à l'organisation des parcours de soins, à l'offre de soins et aussi au soutien à la recherche, sur lequel on est très en retard, alors qu'il y a toute une série d'innovations qui pourraient être faites.
On reviendra là-dessus et sur l'état du milieu de la psychiatrie en France, qui est effectivement en tout cas un sujet d'inquiétude pour les professionnels du secteur depuis assez longtemps. Mais Nicolas Franck, très très concrètement aujourd'hui, effectivement, consulter quand on n'a jamais consulté, c'est pas forcément simple. À qui je m'adresse? Quels sont les réseaux que je peux consulter? Qu'est-ce qui m'assure que tel psychologue est quelqu'un de sérieux avec qui je vais pouvoir vraiment parler? Quel est le problème et comment je fais quand je suis dans une situation de précarité, que j'ai déjà pas suffisamment d'argent pour réussir à boucler le mois, pour en plus payer un professionnel? Ça pose quand même un certain nombre de questions, et des questions très concrètes et très complexes.
Oui, tout à fait. Alors, il y a quand même une offre publique qui existe en France, avec une accessibilité aux soins sans dépenses financières. Donc ça c'est possible.
Après, comment, il faut par où, par quel biais, par quelle porte d'entrée?
par le secteur de psychiatrie française. Donc, typiquement, si vous voulez, vous pouvez être au moins avoir un avis sur ce secteur, être réorienté s'il le faut en privé ou être pris en charge si c'est nécessaire sur ce secteur. L'important, c'est qu'il se soit réorganisé pour qu'il y ait un accès aux soins et puis ensuite une gradation des soins en fonction du niveau de difficulté, enfin du niveau de gravité de la maladie.
C'est-à-dire en passant par le secteur hospitalier ?
Non, le secteur de psychiatrie.
De psychiatrie de ville.
Oui, si vous voulez, la psychiatrie en France est sectorisée. On a divisé le territoire français en un certain nombre de secteurs, chacun ayant en charge de recevoir la population et de la soigner et ou de l'orienter.
Marion Le Boyer, comment est-ce que qu'est-ce que vous pourriez dire justement à nos auditrices et à nos auditeurs qui se retrouvent dans cette situation où soit bah, c'est un effort financier à produire, soit on sait pas très bien est-ce que je prends sur internet le premier praticien qui est à côté de chez moi. Parfois les praticiens ne prennent plus de patients parce qu'ils sont déjà débordés. Comment est-ce qu'il y a des trucs particuliers à savoir pour pouvoir avoir accès à de l'aide quand on en a besoin?
Alors, on a développé en France toute une série d'outils d'information qui permettent d'avoir accès des réponses aux questions que vous posez. Par exemple, il y a le site du Psychom qui recense toute une série de numéros d'appel où on peut avoir ce type de données. Il y a aussi pour les enfants des réseaux et des sites là aussi comme Pédopsy Debré qui donnent toute une série de ressources également. Et puis il y a bien sûr en fonction de l'endroit où on habite, la psychiatrie est organisée de manière sectorisée et on a accès aux centres médico-psychologiques qui sont forcément près de là où on habite. Et puis il y a aussi d'aller voir son médecin traitant qui peut nous aider à repérer et à identifier un professionnel avec qui ils ont l'habitude de travailler. Ceci dit, il y a besoin de développer des ressources dans ce contexte où on pense qu'il y aura une vague plus importante que d'habitude avec en plus des patients que nous suivons dans nos files actives, des nouveaux patients qui vont avoir besoin de soins, c'est ce dont on parle dans cette émission depuis tout à l'heure, pour lequel il y a besoin de réfléchir rapidement à une offre de soins plus importante que celle qu'on peut déployer aujourd'hui, à la fois par le biais de plateformes et probablement par le biais de consultations dédiées le temps de la pandémie.
Le site de Santé publique France, il y a un espace dédié à la santé mentale qui a été créé sur le site. Est-ce que c'est quelque chose d'utile? Est-ce que c'est quelque chose de connu? Comment est-ce que vous le considérez, Nicolas Franck?
Oui, bah c'est un gros progrès, effectivement, hein, bien sûr. Connu, je ne sais pas, on commence à en parler. Moi, je pense qu'il faudrait une campagne d'information, comme ça a été fait pour la transmission du virus, aussi pour la santé mentale, qui informerait la population de ce site et puis des ressources.
Marion Le Boyer.
Je pense que ça, c'est absolument clé. C'est la première action. Nicolas Franck a tout à fait raison. Il faut commencer par faire une campagne d'information qui explique ce que c'est que la dépression, ce que c'est que les troubles anxieux et qui donne un certain nombre de clés sur où est-ce qu'on trouve ces informations dont on a besoin pour trouver un professionnel près de chez soi. Ça, c'est pas des choses très compliquées et c'est vraiment important de pouvoir le déployer rapidement.
Pour revenir un petit peu aux patients Covid, il y a aussi tout un pan qui est assez intéressant puisque on sait que pour les patients qui ont fait des cas graves ou des cas sévères, il y a à un moment donné donc le système inflammatoire qui déclenche cette fameuse tempête de cytokines et donc une réaction inflammatoire généralisée qui va provoquer les formes les plus graves. Or, on en avait d'ailleurs parlé à ce micro à plusieurs reprises, on sait aujourd'hui qu'il peut y avoir un lien entre les états inflammatoires et les états dépressifs. Est-ce que aujourd'hui il y a de la littérature scientifique, des études qui ont été publiées Marion Le Boyer, qui peuvent faire le lien justement entre l'inflammation liée au Covid et les états de troubles psychiatriques qui peuvent s'en suivre, qui seraient donc liés justement à ces états inflammatoires?
Alors, il n'y a pas encore énormément de données sur Covid, c'est trop tôt, mais les études, elles sont en cours. Par contre, il y a une littérature énorme sur les liens entre les infections, la survenue d'inflammation qui ne s'arrête pas et qui persiste pour toute une série de raisons qui peuvent être génétiques, qui peuvent être liées aussi à d'autres phénomènes qui vont générer l'inflammation, par exemple le stress ou une hygiène de vie qui entraîne aussi une inflammation et qui entraîne chez certains sujets prédisposés la survenue de troubles de l'humeur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est parfaitement documenté, qui ne concerne pas tous les patients déprimés, mais qui concerne une grande partie d'entre eux et sur lequel il y a énormément de recherches qui sont en cours aujourd'hui.
Mais alors justement, vous pouvez nous en dire un peu plus, quels sont les liens que l'on peut établir entre un état inflammatoire, pourquoi est-ce que ça toucherait le cerveau, quel est le lien qu'on peut faire et qui est justement à tester entre ces états d'inflammation et des troubles psychiatriques?
Alors, c'est un sujet de recherche qui s'appelle l'immunopsychiatrie, qui a été développé d'ailleurs en France initialement par Robert Danzer à Bordeaux et qui depuis a considérablement essaimé dans le monde entier. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ce domaine. Et le modèle qui est prépondérant aujourd'hui, c'est que chez un grand nombre de patients qui sont soit déprimés, soit qui ont un trouble bipolaire, soit qui développent une schizophrénie, par exemple, on trouve dans le sang des marqueurs de cette fameuse inflammation dont vous parliez tout à l'heure, mais à la différence d'un état infectieux, c'est une inflammation qui est de bas niveau, de bas grade, et cette inflammation, elle est en général la conséquence entre l'interaction entre un terrain immunogénétique, c'est-à-dire des marqueurs génétiques dont nous sommes porteurs et qui font qu'on va répondre, se protéger de manière plus ou moins efficace face à des facteurs environnementaux, par exemple les infections, par exemple le stress, par exemple le fait de vivre en ville, par exemple le fait de prendre du poids. Tous ces facteurs-là, en fonction du terrain immunogénétique dont on est porteur, on va ou non déclencher une inflammation qui, à son tour, va avoir des conséquences au niveau périphérique, au niveau sanguin, aussi au niveau central, au niveau cérébral et au niveau digestif. Mmh. Et ensuite, il y a toute une série de voies biologiques qui vont être activées, qu'on commence à démembrer et à identifier. Et ça, c'est important pour comprendre les conséquences de cette inflammation, qui sont différentes suivant les histoires de chacun et suivant son terrain biologique, parce qu'on espère pouvoir développer des stratégies thérapeutiques très ciblées et très spécifiques. Mais ça, c'est de la recherche et c'est encore loin devant nous.
Nicolas Franck, à ce propos et sur les liens justement qu'il peut y avoir entre d'une part ce que décrit Marion Le Boyer, c'est-à-dire une inflammation à bas bruit qui ouvrirait une sorte de susceptibilité à développer des troubles psychiatriques, et d'autre part, eh bien, cette inflammation pas du tout à bas bruit, mais cette inflammation complètement généralisée et hors de contrôle qui est provoquée par le Covid. Comment est-ce qu'on fait des passerelles finalement entre ces deux états, somme toute assez différents?
Mais d'un côté, vous avez une vulnérabilité propre. Nous sommes tous plus ou moins sensibles. Notre système est plus ou moins sensible à la base. Et puis de l'autre côté, vous avez une réaction à un événement qui peut s'emballer plus ou moins en fonction de notre susceptibilité naturelle, notre vulnérabilité naturelle. Donc ça veut dire, pour le décrypter, pour les auditeurs, pour le dire plus simplement, que certaines personnes sont plus fragiles que d'autres par rapport au stress et qu'elles risquent d'entrer dans la maladie avec un niveau de stress inférieur. Mmh. Donc elles ont intérêt à se connaître et à se protéger. Et donc à mettre en œuvre des mesures qui vont éviter que ce stress ait un effet chez elles.
Est-ce qu'il y a un lien, puisqu'on parle d'inflammation, l'inflammation on sait est liée, est traitée, et d'ailleurs aujourd'hui en réanimation, c'est le cas pour les patients Covid à base d'anti-inflammatoires. Est-ce qu'aujourd'hui, Marion Le Boyer, on a des ouvertures dans la recherche sur les liens qu'il pourrait y avoir entre des traitements anti-inflammatoires et la diminution des troubles psychiatriques?
Alors il y a toute une série d'études internationales qui ont été menées, il y a même des méta-analyses qui ont fait la synthèse de l'ensemble de ces études qui montrent que certains agents anti-inflammatoires pris à faible dose et pendant longtemps permettraient en addition des traitements psychotropes classiques, que ce soit les antidépresseurs ou les antipsychotiques, d'améliorer le pronostic de certains patients. Et c'est important que la recherche se poursuive parce que l'inflammation elle est souvent présente chez des patients qui vont développer une pathologie psychiatrique avec comme caractéristique qu'il y a une difficulté cognitive par exemple, ou bien que c'est des pathologies qui répondent pas suffisamment bien au traitement qu'on utilise traditionnellement. Donc tout ça c'est un sujet de recherche très important qui n'est pas encore applicable à la pratique quotidienne, mais qui permet d'espérer utiliser à la fois les marqueurs biologiques en particulier sanguins, mais aussi le développement et l'utilisation de traitements qui sont finalement déjà disponibles, et une fois qu'on aura la preuve et la confirmation, ça sera possible de l'utiliser au quotidien, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Pour conclure, puisqu'on arrive dans les dernières minutes de cette émission, on l'a dit, encore une fois, on y avait consacré une émission entière à ce micro. Le milieu de la psychiatrie en France traverse une crise assez profonde. Cette crise sanitaire vient mettre en lumière que aujourd'hui, la psychiatrie ne reçoit pas de soutien suffisant des pouvoirs publics et est toujours en train de traverser cette crise profonde qui fait que les services hospitaliers sont débordés, sont sous-financés, que la psychiatrie française va mal, Marion Le Boyer.
Alors effectivement, on a dénoncé à plusieurs reprises les difficultés dans lesquelles se trouve la psychiatrie. Vous vous souvenez peut-être des grèves qu'il y a eu il y a
bien
pas
sûr,
très
oui.
longtemps, avec des équipes paramédicales et médicales dans certains hôpitaux français en très très grande difficulté et qui n'arrivaient plus à accomplir ou à effectuer la qualité de service qu'ils souhaitaient faire. Donc par définition, une crise comme celle que nous vivons et que nous allons vivre dans le temps long, puisque c'est un phénomène dont nous anticipons qu'il va s'installer, il va aggraver encore plus la situation. Les soignants, dont on n'a pas suffisamment parlé probablement pendant cette émission, qui sont eux aussi soumis à des difficultés extrêmement importantes, vont aussi en pâtir. Et donc, on appelle vraiment de nos voeux, de la même manière qu'il y a aujourd'hui une réflexion en profondeur sur, par exemple, le télétravail ou la manière dont on est en train de très rapidement de développer des vaccins, on a besoin que cette réflexion, elle se fasse très rapidement pour la psychiatrie. Donc il y a une feuille de route qui est en train d'être déployée par Franck Bélivier, qui est au ministère, qui a été chargé de cette feuille de route et de ses réflexions. Nous aimerions que cette crise, elle soit aussi l'occasion de réfléchir en profondeur sur l'organisation de la santé mentale en psychiatrie et sur le fait de repenser les parcours de soins, dont on a dit tout à l'heure à quel point ils étaient compliqués, mais aussi l'accès aux soins qui n'est pas identique quel que soit l'endroit où on vit en France. Et puis le soutien à la recherche dont on vient de parler, on a grand besoin d'innovation dans ce domaine comme on en a besoin dans le reste de la médecine.
Nicolas Franck, à ce propos et pour conclure.
Effectivement, il faut des soins lisibles, une accessibilité aux soins, une gradation des soins, enfin quelque chose qui soit vraiment net. Et il faut nous aider à nous réorganiser en nous donnant les finances qui vont avec. Parce que se réorganiser et offrir effectivement des soins conséquents dont la population a besoin, sans moyens, c'est impossible.
C'est vrai qu'on, Marion Le Boyer l'a dit, on n'en a peut-être pas assez parlé pendant cette émission, mais parmi les personnes qui peuvent souffrir de troubles liés à cette crise, il y a aussi le personnel soignant. Aujourd'hui, il y a du monde pour soigner les soignants, Nicolas Franck, pour s'occuper de ces soignants qui sont eux aussi lourdement impactés par les conséquences psychologiques et psychiatriques de cette crise sanitaire.
Eh bien, des cellules d'écoute ont été mises en place, des lignes téléphoniques, et puis les centres du psychotraumatisme reçoivent les soignants qui en ont besoin, qui effectivement ont été traumatisés.
Marion Le Boyer, pour conclure.
Je pense que c'est extrêmement important pour que l'hôpital tienne de venir en aide au personnel soignant, médical et paramédical, qui a été exposé à tous les facteurs traumatiques dont on a parlé tout à l'heure pour la population générale et qui sont donc à risque de développer des pathologies anxieuses et dépressives. Et il faut les rencontrer, il faut aller vers eux pour leur proposer de l'aide.
Merci beaucoup à tous les deux. Ce sera le mot de la fin. Merci Marion Le Boyer, merci Nicolas Franck d'être venu nous parler de cette troisième crise psychiatrique qui menace eh bien, toutes nos populations suite à cette crise sanitaire. Nicolas Franck, on peut vous lire, hein, Covid-19 et détresse psychologique 2020, l'Odyssée du confinement, livre que vous avez écrit, qui est publié chez Odile Jacob. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Natacha Triou, François Malordi, Céline Lezen, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation et Nasser Moussaoui aujourd'hui à la technique. Demain, tout autre sujet, nous allons repartir dans l'espace avec les tout premiers astronautes américains. Nous vous raconterons l'histoire de ces 7 hommes, les Mercury 7, et nous vous la raconterons avec quelqu'un qui connaît bien l'espace, puisque c'est lui-même un spationaute français, Jean-François Clairvoy viendra nous parler des Mercury 7 demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.